une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonjour ou bonsoir, vous écoutez Campus Grenoble 90.8 ou alors vous êtes des jeunes gens modernes et vous nous écoutez sur votre tablette, votre smartphone, votre ordinateur via le site de la radio campusgrenoble.org pour une écoute en direct partout tout le temps ou vous êtes en train d'écouter ou de réécouter cette émission grâce au podcast disponible sur le site de la radio campusgrenoble.org. C'est le printemps, vous avez pu le constater avec le temps qu'il fait dehors, et donc voici le moment de parler du forum de l'événement consacré à l'Europe sous pression qui se tiendra lundi 24 mars à 18h30 au Centre théologique de Mélan. Et pour en parler, je reçois la cheville ouvrière du forum de l'événement, M. Pierre Bréchon, bonjour.
Bonjour.
Et un des deux intervenants qui viendra parler du sujet de ce mois-ci. Bonjour.
Bonjour.
Je peux vous laisser vous présenter ?
Oui. Bien sûr, je suis Yann Echinard, je suis enseignant chercheur à Sciences Po Grenoble.
Et vous êtes professeur d'économie ?
Oui, c'est ça.
Alors, donc, Monsieur Bréchon, je vais vous demander de faire comme d'habitude la présentation du principe du forum de l'événement qui n'est pas un cours magistral.
Voilà, ce n'est pas un cours magistral et ce n'est pas non plus une conférence, c'est-à-dire que c'est vraiment un échange avec les participants. Et donc, évidemment, comme on cherche à ce que les gens qui viennent ou qui nous écoutent, puisque c'est à la fois en présentiel et en distanciel,
oui.
Que les gens qui participent, d'une manière ou d'une autre, ils apprennent des choses au-delà de l'information, des bulletins d'information habituels. Et donc, on a deux intervenants qui nous aident avec un fil de développement, on va dire, du forum découpé en morceaux, c'est-à-dire que chaque fois, sur chaque thème, on a trois sous-questions, et sur chacune des sous-questions, l'intervenant, chaque intervenant, en 5 minutes, dit ce que sont pour lui les grands enjeux de la question, de la sous-question, on va dire. Et puis ensuite, on a 20 minutes d'échange, de questions-réponses avec la salle. Ce n'est pas seulement des questions-réponses. Mmh. Les gens peuvent aussi dire qu'ils ne sont pas d'accord, affirmer leurs idées sur la question, sur le sujet. Et on garde le dernier quart d'heure pour choisir avec les participants le thème de la fois suivante. Là, ça sera le 12 mai.
Ce sera la dernière de la saison.
Voilà. Et donc, c'est une émission de démocratie participative.
Voilà. Et vous êtes le maître des horloges. C'est vous qui chronométrez pour éviter que tout le monde déborde.
Voilà. Y compris, des fois, c'est les gens qui posent des questions qui sont trop longs, mais des fois, c'est les intervenants.
Alors, donc, le thème de ce forum de l'événement qui se tiendra lundi 24 mars à 18h30 au Centre théologique de Mélan, c'est donc l'Europe sous pression dans le contexte international, la guerre en Ukraine, un nouveau président aux États-Unis un peu énervé, l'Inde, la Chine, etc. Effectivement, c'est un thème qui paraissait assez évident qu'il allait émerger cette saison. Et puisque j'ai un des deux intervenants dans le studio, je voulais savoir, c'est la première fois que vous êtes intervenant sur le forum de l'événement ?
Non, j'ai eu la chance d'intervenir à plusieurs reprises au forum de l'événement. Et c'est vrai que c'est un moment très agréable, très sympathique. Et cette alternance entre deux intervenants, puis les questions de la salle, c'est vraiment dynamique. Donc c'est toujours un plaisir vraiment d'intervenir au forum de l'événement.
Et alors, comme j'ai un intervenant sous la main, j'en profite. Comment on prépare pour arriver à rester synthétique et intéressant sur les trois sous-questions qu'on va présenter tout à l'heure et en restant dans le cadre des 5 minutes?
En fait, c'est assez facile parce qu'on essaye de résumer 2, 3, 4 idées forces lors de notre intervention. Et ensuite, on a le temps de répondre aux questions. Donc, on n'est jamais frustré quand on intervient au forum de l'événement. Vraiment.
Très bien. Et c'est un homme d'expérience qui nous en parle, c'est pratique.
Mais c'est cette interaction avec le public qui fait vraiment la richesse de l'exercice.
Et donc vous, en tant qu'intervenant, vous êtes professeur d'économie. Oui. L'autre intervenant, Fabien Terpan, est lui enseignant en droit public. Donc évidemment, ça permet de balayer un peu aussi la situation de la Commission européenne, du Parlement, parce que l'Europe, il y a les institutions, il y a les gens qui veulent encore travailler ensemble, les forces centrifuges.
Et Yann est spécialiste d'économie européenne.
Ah, ça tombe bien.
Et Fabien Terpan est spécialiste de la défense européenne. Ah, donc ben là, ils ont tous les deux des raisons fortes d'être là. Et c'est pour ça qu'on les a choisis.
Et on a aussi une culture, autant Fabien que moi, je pense, cette culture pluridisciplinaire. On a été éduqués à cet objet Europe qui est un objet pluridisciplinaire. Bah, oui. Et pour le comprendre, si on n'a pas plusieurs cordes à son arc ou plusieurs lunettes, on est rapidement perdu. Voilà.
Alors on va expliquer les trois sous-questions qui ont été retenues. Donc la première, c'est face à la montée des menaces extérieures, quelle politique de défense pour l'Europe ?
Non. Ça, c'est la seconde.
C'est la seconde, pardon. Je ne les ai pas dans l'ordre, en plus.
Donc, c'est l'économie européenne, une dynamique à...
Réinventer. Effectivement, bah là, le contexte, je crois qu'il n'y a pas besoin d'expliquer très longtemps avec l'arrivée d'un nouveau président aux États-Unis, etc. Mais il n'y a pas que ça, en fait.
Non, il n'y a pas que ça, mais... C'est un sujet qui est un peu piège parce qu'en réalité, l'Europe ne doit cesser de se réinventer dans son histoire contemporaine. En fait, quand on regarde l'Europe depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, elle est toujours sous des influences fortes, sur des phénomènes crisiques qui la touchent. Et à chaque fois, on pourrait dire qu'elle doit se réinventer. Donc en fait, elle doit à chaque fois se retrouver de l'énergie pour se relancer, se développer. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une accélération des phénomènes de crise durant ces dernières années. Mmh. On peut, depuis la crise de 2008, la crise financière de 2008, qui a fortement frappé la Grèce notamment, mais aussi l'Irlande et d'autres pays européens. Et depuis 2008, l'Espagne, depuis 2008, depuis 2009, on est sous une succession de crises et qui pousse vraiment les autorités, les chefs d'État comme la Commission européenne, comme le Parlement, à faire preuve d'innovation et de grandes transformations. Ça, c'est vraiment un fait qu'il faut noter. Entre la crise financière, la crise du Covid, la crise inflationniste énergétique, la crise politique que traverse le continent avec la guerre en Ukraine, on est vraiment là face à des phénomènes de très grande ampleur. Il faut vraiment le noter, ça.
Oui, puis la dynamique qui consiste à passer à 27 et puis d'envisager de nouveaux entrants alors qu'au sein de l'Europe, il y a aussi des gens qui ont l'air de vouloir en partir. Oui. Le Brexit, etc. etc. Forcément, la dynamique doit se réinventer régulièrement.
Oui, la dynamique doit se réinventer, mais il faut aussi noter qu'il y a davantage de forces qui sont pro-intégration européenne aujourd'hui que des forces qui, entre les chefs d'État et de gouvernement, que des positions qui sont plutôt contradictoires. Là, on le voit bien dans ce moment-là très fort sur le plan politique. Il faut vraiment mesurer ce que nous traversons. Mmh. Eh bien, si on fait le comptage, il y a un pays qui semble poser quelques difficultés, la Hongrie, mais tout le reste fait bloc. Oui.
Forcément.
Forcément. Dans des moments de crise, ça peut parfois faire exploser. Voilà. Mais là justement, on voit qu'il y a du rassemblement.
Très bien. Et donc, la deuxième question, c'est celle que j'annonçais, c'est-à-dire face à la montée des menaces extérieures, quelle politique de défense pour l'Europe ? Là, effectivement, on voit bien quels sont les enjeux, puisque moi, je ne suis pas très très vieux, mais depuis les années 80, j'entends parler de défense européenne. Et en fait, j'ai l'impression que depuis les années 80, on ne fait qu'en parler. C'est-à-dire que si l'Allemagne construit des chars, l'Italie va les acheter en Allemagne, va les acheter aux États-Unis, etc., etc., l'Eurofighter... Enfin, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est... un vœu pieux et que ça n'arrive jamais.
Oui. Pierre, j'y vais ou vas-y.
Je peux te dire deux, trois choses et puis tu compléteras.
Avec plaisir.
Je dirais pas personnellement qu'il n'y a aucune politique européenne, mais en tout cas, elle était jusque-là assez embryonnaire.
Oui.
Je crois qu'en 2022... Et 2023, il y a eu quand même des décisions, des orientations pour, par exemple, faire monter le budget de chaque État à 2%, ce qui n'est pas le cas encore dans tous les États, c'est le cas pour la France. Voilà, dans le plan qui avait été discuté et je crois approuvé en 2023, pour montrer qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire, je crois qu'on parlait de mettre en place une, c'est pas vraiment une armée, mais 5000 personnes prêtes à intervenir sur des situations d'urgence. Oui. Donc on voit bien que la défense européenne, ça reste en partie, et peut-être pour longtemps, je ne sais pas, mais peut-être pour longtemps, une affaire de chaque État, même si on va certainement progresser beaucoup sur la question européenne, sous la contrainte et la pression des événements.
Oui. Oui, on ne peut que valider. Et puis, il y a un chemin qui crée des dépendances. Hein. C'est celui de l'OTAN qui a fait que l'arme utilisée était majoritairement de la production américaine. Et ce temps de sortie de l'armement américain va prendre forcément un temps long. Pour autant, on voit aujourd'hui des volontés de structurer l'industrie d'armement, des volontés de rassembler les industries européennes, de favoriser les alliances, ce qui n'était pas forcément spontané jusqu'à présent. Et là, on voit que sous cette pression très forte, à la fois de la menace russe et de la guerre en Ukraine, mais aussi et surtout peut-être de ce partenaire américain qui devient défaillant, pour rester poli, on voit là les industriels même prendre la parole et dire il nous faut réagir et il nous faut coopérer et il faut produire des alliances. Et sur certains aspects, tu vois, Pierre, ça me fait penser à la CECA, à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, où les industriels...
Redis, donc ça, c'est à quelle période ?
À 1950-51. Hein, 1951. Mais
c'était l'embryon.
C'était l'embryon, mais c'était aussi... Ça s'appuyait avec une volonté politique, mais aussi avec des industriels qui avaient la volonté de créer cette alliance, de créer cette communauté. Et là, on voit la prise de parole par les industriels. Ce n'est pas forcément neutre. Ça ne va pas tout décidé, mais ce n'est pas forcément neutre.
Peut-être, si je peux rajouter, y compris ces jours-ci, c'est vraiment le sujet majeur depuis 2 jours en politique européenne, puisque la Commission européenne a annoncé, Mme von der Leyen a annoncé un plan pour la défense européenne qui comporte... des choses que Yann vient d'évoquer, notamment sur les industries européennes, sur des montants qu'il faudra mobiliser, au moins au niveau des États. Et puis, aujourd'hui, le Conseil européen des chefs d'État est réuni à Bruxelles et toute la journée parle défense européenne. Mmh. Et sur la table, je ne sais pas si ça... s'il y aura une fumée blanche de décision ce soir, mais sur la table, il y a bien la question de lancer un grand emprunt, comme on l'avait fait à la suite du Covid. Mmh. Et on évoque des montants semblables, quelque chose comme 800 milliards d'euros.
Tout à fait.
Et on peut s'appuyer aussi, il y a un rapport qui a été rédigé par Mario Draghi à la demande de la Commission européenne qui est sorti en septembre dernier et qui brossait déjà les lignes de cette révolution industrielle à l'échelle européenne avec un fort soutien dans le rapport demandé à la Commission européenne parce que la situation budgétaire des États européens n'est pas forcément la meilleure. Et même si certains États ont des marges de manœuvre, et on le voit aussi avec la modification de la politique économique allemande.
Ben oui, post-électoral.
Ça, c'est vraiment un point...
Là, c'est un grand changement, en fait.
Ah oui, ça, c'est vraiment un changement très important. C'est allé très vite. Mm-hmm. Le nouveau chancelier est très actif sur ce sujet. Et en toute franchise, il y a quelques semaines, quelques mois...
C'était inenvisageable.
Oui, c'était inenvisageable. Et surtout, pardon, je le dirais ainsi, mais venant de la CDU, qui est assez conservatrice.
Oui.
Et on voit... Et, ben oui, mais on voit là cette prise de conscience de la société allemande.
Et hier, au Bundestag, les élus de l'ancien Bundestag, parce que le nouveau n'est pas encore en place, les anciens députés ont voté à la majorité des 3/5 la fin de la limitation
du déficit public.
Il fallait qu'on soit
En équilibre.
Et donc, ça, c'est très important. Oui. C'est une mesure, en effet, qui a été prise dans l'urgence et qui n'était pas du tout sur la table.
Et l'équilibre budgétaire était inscrit dans la Constitution depuis 2009, sauf
erreur de ma part. Et ce vote, donc, hier, est censé modifier la Constitution, sauf si la Cour constitutionnelle de Karlsruhe s'y oppose, parce que, évidemment, il y a quand même un petit problème démocratique, puisque...
Ce sont les sortants qui ont voté.
C'est les sortants qui ont voté. Alors certes, les sortants ont encore la légalité, puisque...
Leur mandat continue,
mais ils n'ont peut-être pas la légitimité pour faire autre chose que gérer les affaires courantes.
C'est un vieux débat, ça.
Oui.
Néanmoins, on voit que les choses bougent.
Oui, et vite.
Oui.
Et ça s'est accéléré, oui.
Oui, absolument.
Et sur vraiment, comme on le disait, par rapport au changement de politique de l'Allemagne post-électorale, c'est vraiment les choses qu'on ne voyait pas venir du tout.
À cette vitesse-là, non. Vraiment.
Et donc, la troisième question que vous allez aborder ce lundi 24 mars à partir de 18h30 au Centre théologique de Meylan. Comme l'a dit M. Bréchon tout à l'heure, vous pouvez être présent sur place, mais il y aura une vidéo disponible, un lien vidéo qui sera sur le site du CTM pour regarder, mais également pour intervenir en étant en extérieur au moment des questions-réponses. Et donc là, la troisième sous-question qui sera abordée, c'est quel avenir du modèle social et des valeurs démocratiques? Et là, évidemment, ça va pas être facile.
Oui, c'est un sujet qui n'est pas simple, parce qu'on est sur des phénomènes de contraintes financières importantes qui touchent un certain nombre de pays, notamment la France, avec sa situation financière n'est pas maîtrisée depuis quelques budgets. Mais là encore, une fois... il ne faut pas succomber à la dramatisation, parce que souvenez-vous des débats qu'on a pu avoir sur le budget sous Barnier. Six mois après, on n'entend presque plus parler de la contrainte financière qui pèse sur le budget français. On n'a toujours pas vraiment de difficulté à financer notre budget. Et on voit arriver sur la table une nouvelle crise à financer. C'est l'augmentation des dépenses en lien avec l'armement. Donc voilà, faut mesurer les contraintes réelles qui pèsent sur nous. Mais on voit apparaître un débat un peu récurrent qui est de dire alors oui, si on part sur une augmentation des dépenses militaires, alors on va devoir réduire
les
dépenses sociales. Ouais. Voilà. Et là, ce serait vraiment une erreur. Et je pense qu'à l'échelle européenne, les quelques hommes politiques et femmes qui ont pris la parole ont semblé rappeler qu'il ne fallait surtout pas jouer à ça dans des moments de politique si tendue. Et il ne fallait surtout pas déstabiliser les politiques sociales à l'échelle européenne. Donc je reprends encore une fois, mais Mario Draghi a fait une intervention la semaine dernière à Rome et il a bien rappelé cet équilibre qu'on se doit de préserver en ces moments si difficiles. Donc ce serait une grave erreur que de penser que ce serait une opportunité pour remettre en cause le droit social et les acquis sociaux actuellement.
Mais en Europe, c'est une situation intéressante aussi au niveau des valeurs démocratiques et du jeu politique, parce qu'on peut constater d'un côté la montée de certains extrémismes et de l'autre côté beaucoup d'implications dans des forums, dans des associations, dans des mouvements caritatifs ou dans des mouvements liés à la défense de l'environnement et ce genre de choses. Donc ce sont des forces qui peuvent se contrebalancer les unes les autres et effectivement il faut jouer intelligemment pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier.
Il me semble que les valeurs démocratiques sont peut-être pas directement menacées en Europe, mais quand même, elles sont un peu fragilisées. Elles sont un peu fragilisées parce que, par exemple, si on prend les résultats des élections européennes de juin dernier... La droite radicale a beaucoup progressé, fortement progressé, presque dans tous les pays. Et aujourd'hui, les groupes parlementaires qui représentent cette droite radicale, ils sont la troisième force politique du Parlement européen. Le PPE lui-même, Parti populaire européen, de centre droit, de droite
classique.
On devrait plutôt dire de droite, oui.
De droite classique.
De droite classique. Il a aussi évolué plutôt vers la droite. Et aujourd'hui, par exemple, sur un thème qui est quand même très important dans la politique européenne, sur un thème comme l'immigration et la régulation de l'immigration, on a déjà eu, il y a deux ou trois mois, un vote où le PPE et la droite radicale ont voté ensemble pour faire adopter une législation qui... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une législation qui accélère la mise en œuvre du pacte précédent sur l'immigration. Et il y a un nouveau pacte qui est en discussion avec l'idée d'avoir des centres aux frontières de l'Union pour contrôler sur place les arrivées de migrants, avec une question qui partage beaucoup les États européens, de savoir si on fait comme l'Italie, si l'Union fait comme l'Italie et organise dans des pays extra-européens, organise donc des centres pour renvoyer à cet endroit-là ceux qu'on ne veut pas accepter chez nous. Donc je pense quand même qu'à travers non seulement la montée au Parlement européen de l'extrême droite, mais aussi à travers sa montée dans différents États, il y a quand même 4 ou 5 gouvernements où la droite radicale participe à la gestion, à la gouvernance et à des ministères de coalition. Et il y a certes la Roumanie de M. Orban, mais il y a eu aussi une victoire de M. Vico en Slovaquie, qui tient des thèses pas très différentes, même s'il est un tout petit peu plus modéré.
Dans le discours.
Oui.
Dans la rhétorique.
Assez proche.
Oui, ouais. Les thèmes sont les mêmes, il est moins exubérant que Viktor Orban. Voilà. Pour l'instant, il démarre, on va le laisser se chauffer un peu.
Tout ça fragilise quand même un peu, à mon sens, les valeurs européennes, avec aussi la montée du thème... de l'insécurité et l'attente des opinions publiques pour une gestion à la fois des politiques de sécurité et des politiques migratoires très restrictives.
Oui, et puis il y a un fond aussi sur l'état de droit qui est remis en cause régulièrement par des hommes politiques dans un certain nombre de pays.
Y compris en France. On a eu des déclarations
fracassantes.
De nos dirigeants.
Oui. En position ministérielle, parce que quand on est dans l'opposition, bon, je ne dirais pas que c'est...
Ça fait partie du jeu,
parce que c'est assez critiquable comme positionnement, mais encore plus quand on est en position ministérielle. Mm-hmm. Et là, on a ce vent qui souffle des États-Unis, qui donne des ailes à un certain nombre d'hommes politiques, et on voit bien aujourd'hui à quel point les valeurs démocratiques sont combattues aux États-Unis. Alors, je ne voudrais pas faire de l'universitaire scolaire qui ne pense qu'à son université, mais il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis
vis-à-vis
des universitaires, des universités, sur la recherche. Ça fait quand même vraiment froid dans le dos.
C'est ça.
Et on a des hommes politiques qui sont sous forte influence néoconservatrice américaine.
C'est ça. Je rappelais que la séparation des pouvoirs, c'est une bonne chose, que le droit à l'information, c'est une bonne chose, le droit à l'éducation, c'est une bonne chose, et que ça serait bien de le défendre un peu.
Exactement. Et on voit à quelle vitesse ça va aux États-Unis. Oui. Vous parlez du droit à l'indépendance des journalistes, et on est bien placé pour en parler ici. Et... ce qui est en train de se passer au Washington Post est assez saisissant.
Et, là, ça... et qui est quand même pas le journal le plus à l'opposition, enfin le plus radical qu'on puisse trouver au monde.
Certes. Mais c'est quand même celui qui est à l'origine du Watergate.
Oui,
donc
tout à fait.
C'est un marqueur important de découvrir.
Non, mais le Washington Post, c'est pas un journal de dangereux gauchistes.
Ah non, non, non.
Il
y en a pas beaucoup aux États-Unis.
Aux États-Unis, il y en a peu dans la presse majoritaire. Et c'est un journal très installé avec beaucoup de travail journalistique, d'investigation, etc. Mais
c'est
vraiment une institution. Et effectivement, c'est très inquiétant.
Oui, vraiment.
Justement, là, on est en train de parler donc du forum de l'événement qui se tiendra lundi 24 mars à 18h30 au Centre théologique de Mélan, à Mélan, évidemment. Les trois questions qu'on vient d'aborder, vous n'allez pas les aborder de la même façon lundi. Là, c'est vraiment une discussion qu'on a entre nous. Ça n'a rien à voir avec ce que vous allez présenter. C'est juste parce que on fait déjà un bout des questions-réponses, mais pas du tout ce que vous allez faire à ce moment-là, pour pas que les gens qui écoutent l'émission aient l'impression que ce sera une redite.
ça sera plus précis et plus argumenté, plus
tout
développé.
Et puis les intervenants qui interagiront avec vous ont évidemment leur propre avis sur les différentes questions abordées et poseront des questions et diront ce qu'ils ont à dire sur le sujet. C'est effectivement pour définir en gros de quoi il sera question, mais il est vrai que les élections européennes, comme l'a rappelé M. Bréchon, c'était en juin de l'année dernière, donc il y a une nouvelle commission qui est arrivée, il y a un nouveau Parlement, etc. Et donc il y a aussi un nouveau mouvement qui s'intègre. Il s'intègre dans un mouvement mondialisé avec ce qu'on a rappelé au départ, c'est-à-dire les situations de crise aux frontières de l'Europe, la guerre, les nouveaux dirigeants les moins démocratiques qu'on a vus depuis longtemps, parce qu'on n'a pas parlé de la Chine, mais on peut se dire aussi que l'influence chinoise qui arrive pour racheter plein de choses dans certains pays qui sont en difficulté, même en Europe, peut donner des questions, enfin peut poser des problèmes assez inquiétants, parce que le rachat du port du Pirée par des intérêts chinois, les nouvelles routes de la soie, etc. Ça aussi, ce sont des choses sur lesquelles l'Europe doit garder les yeux bien ouverts. Donc oui, effectivement, c'est une question qui est purement d'actualité, encore plus maintenant, mais qu'on peut aborder de différentes façons. C'est ça qui est intéressant dans le système du forum où vous arrivez avec une expertise et ensuite on peut débattre et discuter.
C'est ça. Voilà.
On rappelle que donc vous pouvez vous y rendre. Le Centre théologique de Mélan, c'est facile d'accès, il y a les transports en commun, etc. En plus, pour ceux qui ne sont jamais allés, c'est un très joli lieu, ce qui ne gâche rien. Mais on peut également assister au forum depuis chez soi avec son ordinateur. Il y aura un lien sur le site du ctm-grenoble.org. Et on peut même revoir la vidéo plus tard, parce que pour les gens qui ont des horaires de travail différents ou qui ne peuvent pas être présents le lundi pour le regarder en direct, ils pourront regarder la vidéo ensuite. C'est quand même assez pratique. Et puis comme vous le rappeliez, M. Bréchon, donc, le prochain forum de l'événement se tiendra le 12 mai. Et donc, le dernier quart d'heure du forum consiste à une votation, comme on dit en Suisse, de la vraie démocratie directe, puisque vous allez pouvoir les gens vont proposer le thème qui sera abordé la prochaine fois.
Oui, et après, on vote.
Là aussi, c'est assez intéressant, parce que ça permet de voir aussi quelles sont les attentes des gens qui viennent.
Oui.
Parce qu'évidemment, il y a des thèmes qui émergent de façon très évidente. Là, on vient de l'expliquer avec l'Europe. Le précédent, c'était sur les post-électorales aux États-Unis, vu l'année qu'on a eue. Mais le prochain, ça sera peut-être un thème plus difficile à faire émerger.
Le premier de l'année, je crois, était sur l'Ukraine.
Tout à fait. Là, on était à plein dans l'actualité. Peut-être que le prochain sera plus large ou moins dicté par la situation actuelle.
Inch'Allah.
Et on verra bien. Moi, c'est ce que j'aime bien. C'est l'idée que quelque chose va émerger et on ne sait pas forcément lequel. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec une décision top-down en disant « Le prochain, ce sera sur ça et vous ne discutez pas. Merci d'être venu.
» Et là, cette fois, le précédent forum donc, sur les États-Unis, je dirais « Choisir l'Europe sous pression », c'était un peu la suite logique.
Oui, oui. Mm. Ça paraissait cohérent. On ne sait pas, le prochain, ce sera peut-être sur mon ami Moji et l'Inde, par exemple, qui finalement arrive à louvoyer dans le contexte actuel en passant un peu sous les radars et en se faisant moins remarquer qu'à une époque. C'est-à-dire que la concurrence est rude actuellement sur la place médiatique mondiale, mais...
La position de la Chine est un peu comparable. Hein. Mm-hmm. On ne les entend pas beaucoup.
Oui, hein. Oui, pour l'instant, ils se disent, c'est bon, il y a quelqu'un qui... on va déployer notre parapluie, on va rester dessous et puis on va laisser l'autre prendre toute la lumière. Effectivement, Mais c'est une période de rupture. En même temps, les États-Unis, le président actuel des États-Unis défend clairement une position sur laquelle il est assez intransigeant, alors que c'est pas déjà sous Obama, il y avait des prémices du fait qu'ils n'avaient plus du tout envie d'assurer la défense européenne.
Oui.
C'est un vieux mouvement quand même.
Oui, 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 bien sûr.
Donc on aurait pu anticiper plus. On se retrouve un peu devant le fait accompli et au pied du mur.
Oui, je pense qu'il y a vraiment cette culture des dividendes de la paix.
Oui, oui.
Ça, c'est un point quand même qui est très fort depuis l'effondrement du mur de Berlin.
Oui, oui.
On a collectivement pensé que la paix était définitivement installée entre les grands pays de ce monde.
Mmh.
Le deuxième élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est quelque part la négation de la volonté de puissance des Européens. Des
oui.
pays membres de l'Europe souhaitaient continuer à être puissants. Mmh. Je pense que la trajectoire française peut l'incarner. Mais globalement, il n'y avait pas de volonté collective pour s'accaparer, devenir une puissance militaire. L'échec de la CED de 1954 a marqué la fin d'un projet politique autour d'une armée commune et d'une industrie d'armement. Et on n'a jamais remis sur la table un projet d'ampleur, d'envergure porté politiquement. Et ce sont des événements tels que ceux que nous vivons aujourd'hui, très traumatisants, je pense, qui nous poussent à réagir. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a certes les dividendes de la paix, mais il y a eu des alertes. L'intervention en Géorgie en 2008, la Crimée en 2014. Combien d'observateurs disaient « mais ce n'est pas possible, quand est-ce qu'ils vont réagir ?» Prenons l'exemple de Schröder et de l'Allemagne. Mmh. En 2005, il venait de se faire battre. Il est devenu l'homme de Gazprom.
Mmh.
Donc la Russie était un partenaire
comme les autres
de l'Europe. Oui, pas tout à fait
oui,
comme
pas
les
tout
autres.
À fait, ouais.
Parce qu'avec des enjeux stratégiques, puisqu'on parle de l'énergie, colossaux. Et on pensait collectivement que c'était quelque chose de normal parce que la Russie allait se normaliser. Mmh. Donc il y a toute cette histoire récente qui explique aussi pourquoi on est dans cette situation. Voilà. Mais la réaction est sans doute aujourd'hui plus que nécessaire. Mais ça prendra du temps.
Oui, en même temps, je trouve que les premiers éléments sont arrivés rapidement. Par rapport à l'inertie qu'on a pu connaître sur certaines années précédentes.
C'est souvent le cas en Europe. C'est souvent le cas en Europe.
Mais après, une fois que les décisions sont prises, il faut encore mettre en œuvre.
Oui, les décrets d'application, comme on disait.
Oui, et puis l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie, elle met du temps à monter en puissance.
En gamme, ouais.
Et je crois que Mme von der Leyen, il y a deux jours, a expliqué que... il faudra 5 ans, c'est-à-dire c'est pour 2000, c'est en 2030 que on
les premiers
un peu plus que les premiers, mais en tout cas
le plein rendement.
Oui, et la mise en œuvre des décisions sur la défense sera complètement actée.
Hmm.
Eh bien, on espère voir ça de nos yeux et de vive et de vive voix pour en continuer à en discuter. Je sais que M. Echiner a des impératifs horaires. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous.
Merci beaucoup.
Et donc, on vous retrouvera donc lundi 24 mars à 18h30 pardon, au Centre théologique de Mélan à Mélan pour le forum de l'événement, la session de printemps. Comme on disait au Parlement sous l'Ancien Régime. Le thème c'est l'Europe sous pression. Donc les trois questions vont être abordées par vous et par Fabien Terpan. Et puis Monsieur Béréchon sera là avec son fouet et son chronomètre pour vérifier que tout le monde respecte les horaires et que justement il reste du temps pour, on l'a vu là en quelques minutes à trois autour de la table, qu'il y a très très vite un échange et un débat sur un sujet aussi important que celui-ci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Le podcast de cette émission est déjà disponible donc sur le site de la radio campusgrenoble.org. Vous avez toutes les informations concernant les horaires, l'adresse du Centre théologique de Mélan, le site internet pour lequel accéder au lien pour regarder depuis chez soi si on ne peut pas s'y rendre, etc. etc. Et puis ben, on se retrouvera pour la dernière de la saison qui se tiendra le 12 mai au même endroit. C'est bien ça ?
Merci beaucoup.
Merci à vous, passez une excellente soirée.
Merci beaucoup.
Et à lundi.
À très bientôt.